Nous revoici pour le quatrième module de ce cours consacré à DevOps en pratique, le Source Control Management, et je suis toujours donc avec Julien et Stéphane. On va parler donc dans ce module de contrôle de code source, on va voir pourquoi c'est intéressant de l'utiliser dans une démarche DevOps, mais pas que, et puis comment les outils de contrôle de code source vont devenir en fait un outil commun. On a parlé depuis le... c'est un petit peu un leitmotiv depuis le premier module de ce cours consacré à DevOps, sur la mise en commun des méthodes et des outils et des informations entre les développeurs et les opérationnels, voire les métiers dans certains cas. Et on va voir pourquoi le contrôle de code source est intéressant pour tout le monde. Donc Stéphane, comment commencer sur ce sujet ?
Effectivement, on a parlé du planning, on a parlé de l'environnement de travail, mais à un moment donné, il faut se mettre à coder. Donc on va parler un peu de développement, et pour développer, on va avoir besoin d'outils comme ceux qu'on a vus, comme Visual Studio, Visual Studio Code ou n'importe quel autre outil du marché. Mais ce code qu'on va produire et les configurations qu'on a vues ensemble, que ce soit du PowerShell, du script JSON, de l'Azure CLI, il va falloir les stocker quelque part, de sorte qu'elles soient partagées entre les devs et les ops. Et pour ce faire, on va utiliser un outil qui est bien connu du monde du développement. Depuis de nombreuses années, on utilise un contrôleur de code source. Et ce contrôleur de code source, donc ça va être la pierre angulaire de l'ensemble du projet, parce que, en fait, on va avoir la possibilité d'y gérer le code en versionning, donc le faire évoluer, pouvoir faire des retours arrière. Mais on va pouvoir faire stocker dans ce contrôleur de code source également les tests unitaires sur le code pour s'assurer de leur qualité. Et puis, on va pouvoir le chaîner dans une opération qu'on verra dans un autre module. On va pouvoir le chaîner avec le build. Donc, parlons un peu de ce code source. Donc, l'idée, c'est vraiment de l'utiliser pour partager aussi bien le code que la partie provisioning et configuration. Et c'est ça qui vraiment va distinguer l'usage d'un contrôleur de code source dans une démarche DevOps.
Ça qu'on peut rappeler, hein, côté infrastructure, ça va être des scripts PowerShell, PowerShell DSC, des scripts JSON, des modèles, pardon, ARM écrits en JSON, tout ce genre de choses-là.
Des cookbook chef.
Oui, des recettes chef.
Et donc, on va pouvoir gérer en version l'ensemble de ce code, qu'il soit applicatif ou d'infrastructure, et on va pouvoir labelliser, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un environnement spécifique correspondant à tel ou tel type d'expérimentation, on va pouvoir associer un label à une version et à tous les éléments qui s'inscrivent dans le même packaging, entre guillemets, que l'on souhaite avoir à l'issue du déploiement. Et donc ça, on pourra le faire dès la phase d'enregistrement dans le contrôle de code source. On va pouvoir gérer ce qu'on appelle les branches qui vont pouvoir, sur une ligne de développement, faire évoluer le code en parallèle avec différents développeurs, avec différentes stratégies de branching. Donc on va pouvoir faire des modifications éventuellement sur la branche de code principale, ou au contraire aller sur des branches de code pour ajouter des nouvelles fonctions. Donc chacun va choisir, enfin chacun, l'équipe de développement va retenir une démarche et s'y atteler. Parce que dans certains cas, on va préférer faire du toggle switching de fonctions, activer ou pas des fonctions, et pas passer par des branches de code supplémentaires. Enfin bon, c'est les choix qu'il faut faire en amont du développement. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir directement associer les éléments de travail, les fameuses tâches que nous a montré Julien tout à l'heure dans sa démonstration de l'outil de gestion du backlog. On va pouvoir donc voir si le lead time du développement, si les éléments en cours de développement avancent correctement, parce qu'on aura ce lien entre le code source et les tâches. Tu as demandé de développer telle fonction, oui, elle est finalisée. Bon, à la fois la tâche va être validée et le développement ira dans le même sens. Et c'est un des intérêts de Visual Studio Team Services ou de TFS de centraliser dans le même référentiel le contrôle de code source et les work items. Et puis donc on a la possibilité de faire des retours arrière, parce que l'erreur est humaine, un développeur peut se tromper, un ops peut se tromper, et donc pouvoir faire des retours arrière grâce au versionning que nous offre le contrôle de code source, c'est vraiment incontournable.
Donc quelques exemples de produits dits de code repository.
Oui, effectivement, donc on a déjà parlé de Git, donc du protocole Git qui est implémenté aujourd'hui par de multiples services d'hébergement de contrôle de code source basé sur Git, hein, donc GitHub étant certainement le plus connu, mais il y a également Bitbucket. Et puis, Team Foundation Server supporte Git, au même titre que Visual Studio Team Services. Et donc on a le choix entre Git, qui est un protocole très décentralisé, qui va permettre de cloner un historique complet, un repository complet sur son poste de travail pour le développeur, et sur lequel il va pouvoir travailler et régulièrement effectuer des synchronisations par rapport à un repository plus centralisé. Donc c'est l'approche que propose par exemple Visual Studio Team Services quand on part sur Git, mais Visual Studio Team Services propose aussi le modèle historique de beaucoup plus centralisé de gestion de contrôle de code source, hein, qui s'appelle TFVSC. Là où pour le coup, bah, on est en prise directe sur le central sur lequel on fait ses commits et c'est check-in, check-out plutôt, pour c'est employer ça. La terminologie historique. Mais c'est vrai qu'on a un peu pris l'habitude aujourd'hui systématiquement d'utiliser Git.
Travailler avec Git, ouais.
On s'y fait assez vite. En fait.
On s'y fait assez vite, et puis la partie vraiment de travailler offline dans un environnement. Enfin ouais, offline en fait, mais de pouvoir quand même conserver cette historisation sur la machine, c'est-à-dire qu'on clone notre repository et puis après bah, on fait nos différents commits, on peut revenir en arrière en local, etc. Et puis une fois qu'on est satisfait de ce qu'on a en local, on va faire ce fameux push, enfin on va d'abord faire un pull pour récupérer ce qui a été fait par les autres membres de l'équipe, puisque c'est là où en fait c'est vraiment le point névralgique du projet, puisque c'est là où tout le monde va envoyer ses sources, et c'est là où il faut ne pas écraser les sources de quelqu'un d'autre. Donc il faut toujours faire attention à ce qu'on fait. On a des opérations de merge à faire de temps en temps quand il y a des conflits parce que deux personnes ont travaillé sur les mêmes fichiers ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment là où les sources contrôle, dans leur globalité, vont nous aider à être vraiment performants. Et c'est vrai que pour les développeurs qui nous écoutent aujourd'hui, c'est quelque chose, je pense, qui est relativement évident, parce que ça fait des années qu'on est habitué à travailler avec ce genre de solution sur le code source. Mais on voit vraiment, bah, avec ces équipes qui deviennent DevOps, avec des développeurs et des opérationnels, les opérationnels aussi prendre en main ce genre d'outil pour versionner leur script d'infrastructure. Donc c'est vraiment quelque chose qui devient très important pour tout le monde au sein du projet. Et donc, du coup, un exemple ici, voilà, sur le screen qu'on voit, ça doit être un conflit qui est en cours de résolution sur le portail web de Visual Studio Team Service. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer une petite démonstration pour voir comment tout ça fonctionne. Et je vais vous faire une démonstration avec deux outils différents. Première démonstration qui va être avec Visual Studio Team Services. Donc là, comme le disait Stéphane, on a également un contrôleur de code source à l'intérieur, soit le mode historique qui nous provient de Team Foundation Server, qui est TFVSC, Team Foundation Version Source Control, ou alors le protocole Git qu'on supporte depuis quelques années maintenant. Tout simplement parce que Git est de plus en plus utilisé, que ce soit via le succès des plateformes open source comme GitHub, ou tout simplement parce que c'est un outil qui est hyper pratique à utiliser pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Et donc là, je suis sur un projet, qui est un projet .NET, avec un source control en mode Git. Donc là, j'ai la vision via le portail web qui me permet de parcourir mon code, de parcourir les différentes branches, tags, etc. Que j'aurai à l'intérieur. Je peux aller visualiser l'historique de ce qui s'est passé sur mon projet, etc., etc. Et puis je retrouve tout le système de branches, de pull requests, etc. qu'on a dans un Git classique. Et pour travailler avec ce repository, je vais avoir plusieurs solutions. Git clone à la main depuis n'importe quelle machine, qu'on soit sous Windows, Linux, Mac, on sait travailler avec des clients Git pour travailler avec ça. Ou alors on va pouvoir aussi travailler directement avec Visual Studio, qui va se connecter à Team Services, et sur lequel on va pouvoir justement travailler pour récupérer nos sources, faire les fameux push-pull, faire des pull requests et des choses comme ça. Donc on a intégré toute cette expérience de l'usage de Git aussi dans Visual Studio. C'est pour ça que ça peut devenir aussi un outil pour les opérationnels, puisque quitte à faire ces scripts dans Visual Studio pour tout ce qui est script Azure Resource Manager, PowerShell, etc., autant aussi utiliser Visual Studio pour aller les versionner dans le contrôle de code source. Et donc du coup ici, je suis sur un projet relativement simple, mais ce que je trouvais intéressant de montrer ici, c'est vraiment cette capacité à collaborer entre développeurs et ops au travers du contrôle de code source, à savoir que ici j'ai une application ASP.NET qui va être prise en charge par les développeurs sur laquelle ils vont écrire et développer des nouvelles fonctionnalités. Et dans la même solution, donc on est vraiment dans le même contexte de projet Visual Studio, je vais retrouver tous les scripts d'environnement, les fameux scripts JSON dont nous a parlé Stéphane en démonstration avant. Ici, je vais retrouver par exemple un bout de script qui va aller me déployer de l'application Insight dans mon ressource group. Et au final, tout ça, je vais l'avoir dans un seul et même repository de code source. Et donc, du coup, si je fais une modification dans un de ces scripts ou codes, ici, par exemple, je peux venir, si je trouve une vue, on va aller modifier un petit coup le layout. Voilà. Je vais aller modifier, il doit y avoir, bien y avoir une petite version en bas. Voilà, on va passer en version 1.0.1 ici. Et ensuite, je vais revenir dans mon Team Explorer. Je vais pouvoir évidemment visualiser mes changements. Je vais mettre un message pour mon commit, update v1.0.1. Je fais mon commit, donc là je suis sur Git, donc le commit il est fait en local sur mon poste, éventuellement je peux déjà l'annuler, etc. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une synchronisation, c'est-à-dire que je vais faire un pull, d'abord pour récupérer ce qui a été fait sur le serveur, et un push. Cette option, c'est aussi un sync qui va me faire les deux dans l'ordre, et qui va envoyer mes modifications sur le serveur. Modifications, évidemment, que je vais retrouver ici dans mon historique, si je le réactualise. Je vais retrouver le commit qui vient d'être fait en update version 1.0.1. Donc ça, c'est un premier exemple. L'autre exemple que je voulais vous montrer, c'est un exemple de code qui est hosté sur GitHub, puisque c'est aussi quelque chose qu'on aura l'occasion de voir dans d'autres modules, puisqu'on réutilisera ce projet Verlon.js pour illustrer l'intégration continue, le release management et surtout l'interopérabilité qu'on va avoir entre un outil externe, GitHub, et Visual Studio Team Services. Et là, ce qui est intéressant, en fait, c'est que si on prend le code source de Verlon.js, qui est une application Node.js cette fois, donc nous, on utilise Visual Studio Code pour la développer, c'est que non seulement dans cette application, on va retrouver des fichiers JavaScript qui nous servent à vraiment développer l'application telle qu'elle est, sans rentrer là dans le détail des fonctionnalités, et on va également retrouver des outils d'infrastructure qui vont nous permettre de déployer cette application dans Azure. Donc on va retrouver un template de déploiement ARM, on va retrouver des scripts PowerShell, on va retrouver un Dockerfile, puisqu'on a choisi de rendre cette application disponible via un conteneur Docker, donc ce Dockerfile il est également versionné dans notre projet. Et on va même retrouver un script de build bash, on en reparlera un petit peu plus tard dans un autre module, qui va nous permettre justement de compiler, de créer cette image Docker et de l'envoyer automatiquement dans le hub Docker. Donc on a vraiment ce mix qui est fait entre les fichiers de code écrits par les développeurs et les fichiers de code écrits par les ops. Pour l'infrastructure. Et donc du coup, l'un des intérêts, où là du coup on est sur un projet un peu plus conséquent que l'exemple d'avant, c'est que on a choisi au niveau de GitHub d'utiliser des tags pour chaque version, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on sort une nouvelle version de Verlon.js, on va la taguer. Et donc du coup, si j'ai envie, pour X raison, de revenir à la version 0.2.1, aujourd'hui on est sur la 0, on a sorti la 0.2.2 et on est en train de développer la 0.2.3, si j'ai envie de revenir sur cette version pour répondre à un utilisateur qui a un problème ou quoi que ce soit, je peux en un instant revenir sur cette version-là et avoir accès. Donc là, je peux voir d'ailleurs que sur cette version-là, je n'avais même pas le Dockerfile encore à la racine puisqu'on ne l'avait pas implémenté, mais je peux revenir vraiment sur... il était ici, le Dockerfile, on l'a bougé depuis, mais je peux revenir vraiment sur la version de l'application et la version de mon infrastructure telle qu'elle était il y a 5 mois ici, dans le projet. Et puis je vais pouvoir naviguer comme ça de version en version pour pouvoir à chaque fois remonter une infrastructure, redéployer l'application si nécessaire. Donc c'est vraiment là où on va avoir une vraie collaboration au travers du contrôle de code source entre dev et ops.
Ok. Bien, merci Julien. Donc pour conclure sur ce module, on a bien vu l'intérêt des outils de gestion de code source à la fois pour gérer le code de l'application, évidemment, mais également le code de l'infrastructure, puisqu'il est d'usage de parler maintenant du code de l'infrastructure, donc partagé entre les développeurs et les opérationnels. Merci Julien, merci Stéphane, et on se retrouve sur le prochain module.